travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin.
Chris Patton a terminé son discours en versant quelques larmes. Il a déclaré que maintenant Hong Kong allait être gouverné par des Hongkongais. C'est son destin, il dit, et personne ne peut le changer. Le drapeau du Royaume-Uni a été amené, le drapeau chinois a été hissé, et les premiers soldats chinois ont franchi la frontière sur ordre de Yang Zemin.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Je vous parle en direct et en public de Blois, dans le cadre des Rendez-vous de l'Histoire, où France Culture, vous le savez peut-être déjà, est présente chaque année depuis longtemps. Cette 10e édition est consacrée aux rebelles, à travers les âges, aux rebelles. Et dans ce cadre, j'ai choisi de consacrer à Hong Kong l'émission de ce matin. Hong Kong, colonie britannique de 1842 à 1997, restituée à cette date par Londres à la souveraineté chinoise. Hong Kong, aujourd'hui tout à la fois jalouse de sa différence préservée et inquiète des intentions assimilatrices de Pékin. Hong Kong doutant de la fidélité des dirigeants communistes à leur promesse, fortement exprimée naguère, de préserver son originalité politique, d'entretenir deux systèmes dans un seul pays. Hong Kong, parcouru depuis le printemps dernier par des mouvements de protestation, notamment du monde étudiant, contre une limitation de la portée du suffrage universel pour la désignation des autorités futures. Hong Kong, secoué tout récemment, je le disais, par des manifestations plus récentes encore, de grande dimension. On a commencé d'y parler d'une révolution des parapluies, ceux-ci étant destinés à protéger non pas contre des averses, mais contre les gaz lacrymogènes et les bombes au poivre utilisés par la police. J'accueille ce matin Jean-Luc Domnac, dont la compétence de grand sinologue est familière à mes auditeurs et qui a vécu plusieurs années à Hong Kong, y retournant souvent. Hong Kong la rebelle, au service de quelle passion, à partir de quel héritage historique, lui laissant quelle latitude d'action, selon quelle stratégie, avec quelles espérances. Voilà une belle brochette de questions à situer dans la longue durée. Et d'abord, écoutez une correspondance de 1948.
Ici, Samy Simon qui vous parle de Hong Kong. Ville étonnante que Hong Kong, Gibraltar économique de l'Angleterre, en cette partie du monde, dernier et solide bastion en tout cas de sa puissance en Extrême-Orient. Au sortir de l'Indochine qui a bien du mal, hélas, à panser ses blessures quotidiennes, Hong Kong apparaît comme un extraordinaire Eldorado. Tout ici donne l'impression de luxe et de prospérité. Cette ville champignon, bâtie sur une île face au continent chinois, dont elle n'est séparée que par un bras d'un demi-mille à peine, a fait de ce rocher la citadelle des affaires. Tout ce qui s'en va ou vient d'Extrême-Orient dans le monde passe, ou à peu près aujourd'hui, par Hong Kong. Promu depuis que Shanghai s'est sclérosé dans son autarcie calamiteuse au rang de premier port d'Extrême-Orient. Mais je manquerai à tous mes devoirs de reporter si je ne vous disais pas un mot de la ville chinoise de Hong Kong. Extraordinaire dédale de rues enluminées où se presse une véritable pâtée humaine qui ne doit avoir son équivalent qu'à Shanghai. Le chinois de Hong Kong, qui possède la double nationalité d'ailleurs, car il est en même temps sujet britannique, bénéficie lui aussi par contre-coup de cette prospérité de la ville. Et le résultat, c'est quand il le peut, qu'il fait venir ses cousins. Or, comme vous savez, on a beaucoup de cousins en Chine. Et toute cette population déferle de jour et de nuit, car on vit beaucoup la nuit à Hong Kong, à travers les rues flamboyantes de néons et d'enseignes lumineuses, le chinois adore la lumière et les couleurs vives, dans un concert de cris, de chants, de mélopées, de radios, d'interjections et de rires. Ce qui m'a frappé, c'est la gentillesse, en effet, la bonne humeur, la naïve gaieté même du chinois ici. mon pouce chantait tout à l'heure en menant à la radio la Hong Kong ZBW, à la complaisance de qui je dois d'ailleurs de pouvoir vous parler ce soir. Et sans doute, mon chinois pensait-il qu'à tout prendre, la situation au point de vue économique pour lui-même est meilleure ici qu'en Chine.
Jean-Luc Domenac, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre donc un reportage de Samy Simon à propos d'Hong Kong. Le 1er janvier 1948, je signale en passant que c'est le même Samy Simon qui s'exprime chaque semaine au début de notre générique à propos de la peste. Comme on m'interroge souvent sur ce point, je profite de cette conjoncture pour renseigner mes auditeurs curieux. Cela étant dit, ce n'est pas de cela que nous allons parler. Nous n'allons pas parler de la peste, nous allons parler de Hong Kong. Je voudrais que vous nous disiez comment vous réagissez à ce premier reportage à partir de votre expérience et que vous nous disiez aussi de quoi est faite cette expérience. Combien de temps vous avez vécu à Hong Kong ?
J'ai vécu 2 ans comme attaché culturel. J'étais bien jeune pour cela. Et j'habitais à mid-level, c'est-à-dire au milieu du rocher, là, en quelque sorte. Et tout en haut, d'ailleurs, je dis en passage, parce que pour comprendre Hong Kong, il faut voir toutes ces contradictions, tous ces contrastes. Et nous avions un ami, un journaliste italien, qui, de temps en temps, se disputait avec son propriétaire. Et alors, la nuit, comme ça, quand on prenait un bateau pour aller ici ou là, on voyait comme ça des pétards qui partaient dans un sens, dans l'autre, ils se battaient à coups de pétards. C'était la Chine survivant à travers le Hong Kong des années 70, quoi, on veut dire.
La vie privée,
la vie chinoise, la façon chinoise d'allumer le ciel, en quelque sorte. Enfin, voilà, c'est ça, Hong Kong, c'est ce mélange un petit peu de tout. Et puis, une deuxième chose, si vous voulez bien, c'est quand même un exemple extraordinaire de ville qui est partie de rien du tout. C'était des pauvres types, hein, véritablement. C'était des paysans, c'était des pêcheurs. Et puis, le miracle a fait que quand les Anglais sont occupés d'eux, ont assumé l'ordre, parce que c'est ça le problème en Chine. Les Chinois, contrairement à tout ce qu'on raconte, sont en désordre permanent. Il faut donc qu'il y ait quelqu'un qui assure l'ordre. Les Anglais ont assuré l'ordre et Hong Kong est devenue grande.
À partir de ce rocher stérile qu'on appelait vaguement Port Absolument. Des Parfums, mais c'était plutôt le premier qualificatif qui était employé. J'allais vous demander si Samy Simon n'avait pas enchaîné quelques clichés, quelques stéréotypes, la naïve gaieté, le chinois qui adore la lumière, les couleurs. Ouais, j'ai l'impression qu'avec votre pétard, vous rejoignez assez bien ces idées-là.
Ils se caricaturent eux-mêmes, ils n'en sont pas mécontents. C'est ça les fêtes en Chine. Hein. C'est l'auto-caricaturation. Non.
Vous étiez quand ?
C'était 76-78. Voilà.
Oui, donc entre le temps que nous allons avoir à considérer de la révolution culturelle avec ses conséquences et le retour de la colonie britannique.
J'y suis retourné souvent.
Oui, vous êtes familier, mais vous parlez plus volontiers, me semble-t-il, des parties de la Chine que vous aimez moins.
Oui, vous voulez dire...
Vous m'avez dit, expliquez que vous n'écriviez moins sur les pays que vous aimiez.
J'ai hésité
à vous inviter, mais enfin, maintenant, je suis content de le faire,
après vos premières
phrases.
Hong Kong, j'ai tellement aimé Hong Kong, vous comprenez, parce que c'est un mélange, c'est au fond une sorte de... C'est une sorte de compréhension de l'un par l'autre. Il y a les paysans, il y a les originels, et puis il y a un tas de Chinois venus de partout. C'est de toute la Chine du malheur, ces réfugiés à Hong Kong. Et puis c'est aussi la Chine qui veut repartir. Parce que ça, c'est une deuxième chose que je vous dis sur Hong Kong, c'est que fondamentalement, Hong Kong, ça sert à recevoir des malheureux et ça sert à leur permettre de se tailler. Il n'y a pas d'autre mot à dire, de partir. Parce que ce qui caractérise les Chinois de Hong Kong, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes et encore moins depuis que les Anglais sont partis. Au moins, les Anglais faisaient régner l'ordre. Maintenant, ce sont les Chinois qui vont le faire régner. Oulala.
Vous avez le droit de choisir vos mots, que ce soit clair dès le début, de même que Samy Simon, mais ça je n'y peux plus grand-chose, avait le droit de parler d'une véritable pâtée humaine. Une pâtée humaine, vous employeriez la même expression ?
Ah, il y a de ça.
Alors pour expliciter cette histoire, pour l'éclairer par la longue durée, il faut tout de même revenir au début, au moment où ce rocher est stérile, nous en disions un mot. Ce rocher stérile et s'est trouvé brusquement promu au rôle historique que nous allons avoir à étudier. Qu'est-ce qui s'est passé au début ? Il faut se situer au moment de l'ouverture de la Chine, la guerre de l'opium.
Au début, c'est un port que les Anglais gagnent, comme le plus fort gagne toujours. Et puis ensuite, c'est un port qui a vécu, disons, de la complaisance des Anglais qui admettaient à peu près tous les truandages, tous les contraires, disons, des lois de maritimes, des lois à Hong Kong, on pouvait tout trouver.
Un port franc.
C'est un port franc.
Plus franquissime.
C'est bien aimable, ça, franc.
C'est mon tempérament.
Non, c'était extraordinaire. Tout est possible à Hong Kong. Vous pouvez trouver absolument ce que vous voulez, y compris des choses merveilleuses, y compris des vieillards, des sages, y compris des prêtres taoïstes. Enfin, il y a tout, quoi.
Il y a de tout. Mais au début, il n'y avait rien.
Il n'y avait rien. Alors,
comment ça a commencé?
Gratter la terre.
Comment est-ce que l'Angleterre s'est emparée de ce rocher stérile?
C'est-à-dire que les troupes, enfin les marines occidentales arrivaient. Les Anglais ont choisi Hong Kong en se disant on va bien, on verra bien. Et très vite, ils ont vu. Voilà, c'est comme ça.
Ils ont profité des guerres. Ils ont d'abord pris le rocher.
C'est les guerres de l'opium, 1839-1842.
Il n'est pas mal de le rappeler, voilà. Même à tous
voilà,
ceux qui le savent.
Ça. Et Hong Kong fait partie du paquet, disons. Mais Hong Kong aura toujours un sort différent parce qu'à Hong Kong, contrairement à Shanghai, disons, l'étranger, ça sera toujours une colonie, disons, en bonne partie. À Hong Kong, il y a d'abord la colonie, puis des territoires qui sont ajoutés.
20 ans plus tard.
Et dans tous les cas, la Grande-Bretagne, disons, a un pouvoir considérable. Et elle a eu la sagesse de n'en faire qu'un usage extrêmement sage et on dirait respectueux, si par ailleurs les Anglais n'étaient pas totalement distraits, quoi. Voilà. Donc c'était bien, quoi.
Les Anglais sont distraits, les Chinois sont joyeux.
Les Anglais étaient distraits, les Chinois ont fait leur petit boulot et Hong Kong grandit.
Voilà. Géographiquement, il faut rappeler que c'est tout petit, 120 km carrés.
Tout à fait. C'est une langue de terre qui est le prolongement de la province du Kwantung. Et c'est une île, qui est l'île de Hong Kong, avec de magnifiques forêts au centre et des plages. Je ne vous dirai pas tout sur les plages. Moi, ma thèse, c'est qu'un pays où il y a une plage à moins de 20 minutes partout ne peut pas être un mauvais pays.
Vous confirmez que vous y avez vécu quelques années, visiblement.
Véritablement, ça, c'est un pays merveilleux. Mais en même temps, il faut bien comprendre qu'il y a une pulsation fondamentale à Hong Kong depuis le début. Hong Kong, ça sert à accueillir et à faire vivre les malheureux. Et les Anglais trouvent qu'après tout, pourquoi pas, dès lors que ça ne les gêne pas, et que ça ne gêne pas leur promenade. Ils ont gardé la grande capacité, en plus des plages, la grande caractéristique de Hong Kong, c'est qu'il y a des chemins pour marcher partout. Parce que les Anglais estiment que la civilisation, c'est la marche à pied, c'est ça, quoi. Et alors,
À mesure que Hong Kong grandissait, donc au 19e siècle, on a vu s'installer les deux communautés qui se fréquentaient guère, en fait.
Communauté de base des cantonais, qui parlent cantonais, et qui bien souvent ne parlent même pas chinois. À cela se sont joints toute une série de communautés, et notamment celle qui a été décisive au lendemain de la prise du pouvoir par les communistes. Ça a été en 1949-50, c'est les Shanghaïens qui ont déménagé leurs usines textiles et qui ont apporté à Hong Kong quelque chose qui a été un plus énorme. C'est-à-dire, jusqu'à présent, Hong Kong était un port, disons, et Hong Kong est devenu une zone industrielle considérable. C'était le textile shanghaïen qui a migré, disons, sur Hong Kong. Et avait, en même temps que le textile shanghaïen, c'était la grande bourgeoisie de Shanghai, qui est une bourgeoisie de très grande qualité intellectuelle, et c'était déjà, on peut dire, les concepteurs, disons, de l'offensive monétaire, de l'offensive financière de Hong Kong dans le monde d'aujourd'hui.
À vous écouter, Jean-Luc Domnac, on se dit qu'au fond, Hong Kong, c'est quelque chose d'assez spécifique depuis le 19e siècle, c'est-à-dire une colonie sans colonisation.
C'est une colonie sans colonisation parce que personne ne s'intéressait à la colonisation, pas les Anglais.
Il y avait très peu d'Anglais, de toute façon.
Non, oui, tout à fait. Et pas les Anglais et pas les Chinois. Mais alors, il y a une petite marge quand même de changement, c'est que les Anglais, vers les années 60-70, notamment le Labour Party qui était souvent au pouvoir, se sont dit quand même on va faire des efforts.
1960-70.
Et alors là, ils ont fait des cités pour les pauvres, ils ont fait des programmes sociaux, etc. Et Hong Kong est devenu vraiment un pays de justice.
Ce qui est aussi intéressant à la lumière des affrontements d'aujourd'hui, c'est de voir comment, en termes institutionnels, la Grande-Bretagne a souhaité gouverner Hong Kong. Est-ce que c'était un pouvoir plaqué d'en haut? Il y avait un gouverneur et il y avait aussi une apparence de conseil. Non,
vous avez il y avait à peine un gouverneur.
Vous avez l'air légèrement dubitatif.
Il y avait à peine un gouverneur parce que je me rappelle encore mon consul général racontant qu'il venait de voir le gouverneur et le gouverneur est aux prises avec une grève des chauffeurs de taxi, venait de régler cette grève en téléphonant au directeur de chez Nouvelle, de l'agence chez Nouvelle. C'est-à-dire qu'il s'adressait carrément aux communistes, si vous voulez. Les Anglais réglaient les affaires là-bas de la façon la plus économique possible. Hein. Ce qui comptait, c'était prendre le thé. Les dames étaient tout à fait charmantes. Et les messieurs, eux, prenaient des airs virils et tout. Mais ils étaient une toute petite minorité de gens. Et pendant ce temps-là, on entendait le grondement du travail à Hong Kong, qui était vraiment l'air sur lequel tout se jouait, en quelque sorte, dans Hong Kong.
Ce qui n'empêchait pas les Britanniques présents de faire d'assez bonnes affaires.
Même pas tellement.
Ah bon ?
Ils s'y intéressaient pas tant que ça. Ils ramassaient toujours, mais pas trop bas quand même, hein. Il y avait d'autres hommes d'affaires venus d'un peu partout dans le monde qui, eux, ont fait de Hong Kong la grande place de financière qu'on connaît.
Il y avait, au moment de la conquête par les Britanniques, une poignée d'habitants, de quelques pêcheurs, vous le disiez.
Et puis
la progression de la démographie à Hong Kong est très, très frappante. Elle n'a pas cessé d'augmenter cette population. 1 million en 1937.
7 millions maintenant, 7 millions et quelques maintenant.
4 millions en 70.
Voilà.
Oui, alors maintenant, il faut que nous en arrivions, en se rapprochant de notre actualité, de cette période décisive qui est celle de la prise du pouvoir par les communistes en Chine. On aurait pu penser qu'ils allaient dévorer Hong Kong en une seule bouchée. Et la manière dont les choses se sont passées doit être évoquée et peut l'être par cette archive qui est décrit l'entrée des communistes à Shanghai. Et la manière dont les Britanniques se sont comportés, c'est le point sur la situation en Chine. C'est un extrait des actualités françaises. Vous savez, c'est à l'époque, dans les cinémas, avant le film, on avait cette... Oui, chacun a l'air de le savoir ici. Avant le film, on avait une sorte de résumé des affaires du monde. Parfois, d'ailleurs, relativement un peu adouci par rapport à la brutalité. Enfin, voilà, ça, ce n'est pas adouci. On va voir comment de nombreux réfugiés arrivent à Hong Kong et comment les autorités britanniques se préparent à défendre la ville. 27 octobre 1949.
La guerre en Chine continue, marquée par l'irrésistible avance des forces communistes. Et les premières images de l'entrée des troupes de Mao Tse-Tung à Shanghai, évacuées par les nationalistes, ont pu parvenir intactes jusqu'à Hong Kong. Shanghai, première étape d'une offensive qui devait se développer avec une rapidité extraordinaire, et entraîné dans les premiers jours d'octobre la chute de Canton. Canton, aux mains des Rouges, cela représente une menace directe contre la vieille colonie anglaise de Hong Kong, base militaire de première importance et clé du commerce avec la Chine du Sud. Hong Kong est devenue maintenant une citadelle où affluent les réfugiés venant de Canton et de l'Interland, occupés par les communistes. Dernier avant-poste européen en Chine, la Grande-Bretagne est décidée à le conserver coûte que coûte. A cet effet, au milieu d'une population qui a triplé en quelques semaines, les autorités britanniques se sont efforcées de regrouper les forces chinoises susceptibles d'être encore utilisées afin d'accroître le potentiel militaire du port menacé par la proximité des avant-gardes communistes. En plus de ces unités récupérées, des régiments venus d'Angleterre et qui portent à 40 000 hommes, la garnison de Hong Kong complète le système défensif qui doit assurer la sauvegarde de la ville. L'installation de points d'appui à l'intérieur du pays et des manœuvres quotidiennes auxquelles participent d'importantes forces aériennes signifient à Mao Tse-Tung d'avoir à laisser Hong Kong à l'écart de sa route. Chef de guerre exceptionnel, mais également bon diplomate, le président de la nouvelle République chinoise devra tenir compte de cet avertissement.
France Culture, concordance des temps.
Jean-Noël Jeannet.
Alors Jean-Luc Demnac, vous avez apprécié la musique d'ambiance de cet extrait, n'est-ce pas? Mais est-ce que cette formule un peu martiale, la Grande-Bretagne est décidée à conserver coûte que coûte ce dernier avant-poste européen en Chine. Est-ce que c'est sérieux? Si Mao avait voulu s'emparer de Hong Kong, aurait-il pu le faire?
Ça, nous le savons, Mao n'en était pas sûr. Ça, c'est toujours le problème. Et d'autre part, très vite, s'est imposé un deuxième argument qui est que c'était un bon poste d'observation, notamment sur le Japon. Et là, on pouvait bricoler, en quelque sorte. Hong Kong, ça a été le cinéma permanent des agents secrets. Hein. On rencontrait des gens, quand même, quand j'étais là-bas, qui avaient toujours les volets de plomb dans les fesses qui dataient de ce moment-là.
Je me rappelle que dans L'homme au pistolet d'or, vous vous rappelez sûrement, de James Bond, c'est un des tout premiers, il doit dater de 1967. Hong Kong est un lieu... J'ai recherché pour tout vous dire s'il n'y avait pas quelques extraits possibles de ce film, mais Hong Kong reste très abstrait. Il y a une très belle dame, ça ne vous surprendra pas, mais Hong Kong reste très abstrait.
J'ai d'ailleurs une fois, je ne sais pas pourquoi, été l'objet des avances d'une espèce de...
Comment je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi.
Non, je ne sais
toujours pas pourquoi. Votre modestie vous perdra.
Non, je ne sais toujours pas pourquoi. Et troisièmement, ce que je voulais dire, c'est que pendant la guerre civile, Hong Kong avait beaucoup servi les communistes, mais en même temps, les agents communistes avaient eux-mêmes changé au contact de Hong Kong, des Anglais, etc., etc. Et Mao n'était pas trop pour qu'ils reviennent tous à Pékin d'un coup. Hein. Ça faisait beaucoup de gens un peu trop malins, un peu trop astucieux.
Abcès de fixation.
Pardon, oui, c'était un peu un abcès de fixation. Et c'était beaucoup, beaucoup d'entre eux, de ces gens-là trop intelligents, qui savaient l'anglais, correspondaient avec Chou Enlai. Et Mao, pour lui, ce qui comptait vraiment, c'était le pouvoir, le sien. Hein, c'était ça. Et donc là, Hong Kong, bon, on laisse comme ça. Et les petits copains de Chou Enlai continueront à jouer dans la mare aux canards.
Eh bien, en même temps, on s'aperçoit que les industriels shanghaïens arrivent de plus en plus nombreux.
C'est ça. Et alors là, je dois raconter, ma femme et moi, on était absolument effarés quand nous avons été invités chez des nobles, le mot me vient, des nobles shanghaïens. Parce qu'on peut dire, il faut dire franchement, le Hongkongais, lui, est assez prolo, quoi. Et c'est pas des gens très fins, quoi. Il n'y a pas. Alors, au bout de quelques générations, on en fera peut-être quelque chose.
N'oubliez pas
c'est des gens très travailleurs.
N'oubliez pas, Jean-Luc Demnac, que notre émission est amplement écoutée à Hong Kong. Je vous demanderai d'être un peu diplomate.
Non, ce sont des gens très travailleurs. Et par ailleurs, il y apparaît une jeune bourgeoisie très éclairée, qui d'ailleurs achète des produits français. Ça ne se sait pas. Mais Hong Kong est une des places où la France réussit le mieux sur le plan des exportateurs. Hein, là-bas, on vend à peu près ce qu'on veut. Laurent Fabius y est en permanence, etc., etc. C'est comme ça. En tout cas, le Hongkongais moyen n'est pas très fin. En revanche, le Hongkongais venu de Shanghai, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est vraiment le duc d'Artois. C'est vraiment les grandes... Il y a des grandes familles comme ça. Et je me rappelle avoir vu... Il y avait 100 mètres à faire à pied. On a été pris par une bagnole absolument incroyable qui nous a montés comme ça. Puis ensuite, on était... Tout ce monde se rompait en salutation. Ils s'exprimaient dans une langue qui était un mélange de chinois très classique et de shanghaïen. Enfin, c'était vraiment autre chose. Et de la même façon, à Hong Kong étaient arrivés aussi tous les réfugiés du monde, et notamment les réfugiés de Chine. Alors, ça fait que l'essence de Hong Kong, qui était d'être cantonaise au tout début, l'essence de Hong Kong est devenue, disons, de représenter une Chine beaucoup plus variée. Et ça complète et achève, si je puis dire, les raisons, le raisonnement de Mao. Hong Kong, laissons-le comme ça. Laissons-lui la diversité à Hong Kong au moment où moi, Mao, je veux tout ramener à l'unité.
Cette notion d'arrivée de réfugiés successifs, oui, par vagues, oui, qui l'une poussant l'autre, et à vous entendre, Jean-Luc Demnac, essentiel pour comprendre ce qu'est Hong Kong et aussi pour comprendre ce que cette histoire explique pour aujourd'hui.
Absolument, si vous me permettez. Alors, il faut savoir que on peut dire ça d'une façon aimable,
Et je le dis d'abord,
c'est l'équipe,
l'équipe de natation du Kwangtung, qui est la province voisine, a toujours été championne en Chine. Ça veut dire que tout le monde se prépare à faire la traversée à la nage. Bon. Mais deuxièmement, alors maintenant, l'horreur...
Il y a des requins, non ?
Hein ? Ben voilà, j'y viens. L'horreur, c'est la première fois que nous arrivons à Hong Kong, nous promenons notre fille aînée au bord de la plage et on tombe tout de suite sur un cadavre, disons, à moitié dévoré. Voilà, ça, c'était quelque chose qui arrivait, disons. Et Hong Kong a été vraiment le but final de toutes les espérances. Et pendant et à chaque soubresaut de tragédie en Chine correspondait une fuite vers Hong Kong. Ça a été d'abord pendant le grand bond en avant 58-61. Ça a été ensuite pendant la révolution culturelle. Et si bien que ça finit par produire dans les années 70 un Hong Kong, disons, qui était un Hong Kong du malheur. Alors je ne sais pas si maintenant j'en parle, c'est-à-dire pendant la révolution culturelle, le train de 2017.
Attendez, vous allez en parler, mais auparavant, d'accord, parce que je respecte la chronologie. Non, voilà. Je vous en prie, un bon historien, je vais vous faire entendre, une archive qui est une analyse d'un journaliste qui s'appelait Jean-Jacques Bérébi, une analyse de ce qui se passe à Hong Kong et sur le problème des réfugiés. C'est diffusé le 23 février 1962 sur la RTF, une des vagues.
Si l'on voit à Hong Kong une misère poignante, personne ne meurt de faim, le bol de riz quotidien étant toujours assuré. Sans subventions extérieures, sans aide britannique ou internationale, le gouvernement de la colonie a fait face seul au problème énorme que représente le quadruplement de la population en 10 ans. De 700 000 habitants en 1948, la population de la colonie avait dépassé 3 millions en 1958. Et atteint 3,5 millions en 1961. Le gouvernement colonial a construit d'immenses casernes gérées par l'administration pour loger décemment les réfugiés. Malgré les contrôles, il en arrive sans cesse par les milliers de jonques qui sillonnent la mer de Chine méridionale et ils vont s'entasser dans les bidonvilles des hauteurs de Hong Kong. Affamés et démoralisés, en Chine rouge, les réfugiés sont attirés par le mirage de prospérité, l'auréole de richesse diffusée très loin par le port parfumé. Ils doivent se contenter d'infects baraquements accrochés à des pitons parce que les terrains sont horriblement chers et acceptent pour subsister n'importe quel travail. Beaucoup d'entre eux, à la longue, se refont une vie décente. On rencontre de nombreux réfugiés parvenus en quelques années à se réhabiliter, voire à acquérir d'enviables positions dans le commerce ou l'administration. Certains, en s'associant, ont fondé des entreprises aujourd'hui très prospères. On n'en estime pas moins à 700 000 le nombre des réfugiés encore croupissants dans les bidonvilles et qui n'ont pas de salaires assurés. Ils ont fui l'enfer communiste pour entrer où ? Nous sommes partis parce que nous n'en pouvions plus, répètent les réfugiés. Mais leur fuite n'est qu'illusoire, ils ne font que passer par un long purgatoire, car Hong Kong semble destiné à revenir un jour ou l'autre à la Chine communiste, et ceux qui sont partis n'ont fait que gagner quelques années de répit. Cependant, si l'issue fatale n'est guère douteuse, il dépend entièrement de l'Occident que Hong Kong demeure encore longtemps un havre de liberté, une sorte de poumon d'acier pour ceux que l'oppression communiste n'a pas brisé. Tant que cette folle prospérité durera, Pékin ménagera ses bons rapports avec la colonie britannique de Hong Kong dans l'intérêt même du communisme. Mais le jour où des troubles éclateraient dans la colonie, le jour où Hong Kong cesserait de représenter pour la Chine rouge, le gisement de dollars fabuleux, on peut parier que Mao Tse-tung donnera le fameux petit coup de téléphone et Hong Kong aura vécu.
Alors, Jean-Luc Domenac, cette interprétation de 62, on voit une sorte d'épée de Damoclès, à n'importe quel moment, elle peut tomber sur la tête des Britanniques.
Oui, oui. À l'époque, le rapport de force est comme cela. Mais les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure... demeure pour Mao de ne pas trop bouger et de laisser faire et de laisser un petit peu Hong Kong faire le boulot, faire nourrir un petit peu tous ces centaines de milliers de gens.
Cela étant dit, si on considère la longueur de temps du XXe siècle, on confirme ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a toujours deux ressorts pour l'immigration à Hong Kong, c'est-à-dire le souci politique et puis le ressort économique.
Voilà, tout à fait.
Est-ce que vous pouvez... Il faudrait que nous évoquions les troubles, les effets des troubles qui ont parcouru la vie de la Chine depuis la chute de l'Empire.
Ah bah depuis la chute de l'Empire, c'est clair. Chute de l'Empire en 1911. C'est le bazar ensuite en Chine jusqu'en 1927, où une unification progressive est établie au profit de Chiang Kai-shek. Et puis c'est la guerre ensuite entre la Chine de Chiang Kai-shek, entre Chiang Kai-shek et Mao Tse-tung. Et finalement, la stupidité de Chiang Kai-shek et de ses collègues fait que Mao va gagner alors que personne ne prévoyait.
Et Sun Yat-sen, le fondateur de la République, alors, a pris refuge.
Ce qui est très intéressant, alors, voilà, ça c'est très intéressant et ça fait apparaître Hong Kong sous une autre espèce, peut-être d'ailleurs en partie erronée, mais l'important est que beaucoup de Chinois y ont cru. C'est-à-dire que depuis le début du XXe siècle, la plupart des libéraux, entre guillemets, chinois font un tour par Hong Kong. Hong Kong, c'est en dehors. Hong Kong, c'est la protection des Anglais. Hong Kong, c'est aussi désigne, hein, parce que les Anglais, malgré tout, leur fumisterie tranquille est quelque chose qui ne laisse pas tout à fait qui intéresse. Les Anglais protègent la diversité et en même temps donnent un petit coup de social de temps en temps, comme ça, distraitement. Mais finalement, c'est moins pire du côté de Hong Kong qu'ailleurs. Alors, il y a pendant les années 20, eh bien, beaucoup de troubles sociaux à Hong Kong.
Il y a une grève terrible, une grève des marins.
Une grève terrible. 1922. Mais les Anglais laissent filer, hein, vous savez. La police va donner quelques coups de mousquet et puis quelques coups de bâton. Mais en gros, c'est quand même. Ça se passe mieux à Hong Kong qu'ailleurs. Et puis, alors, ensuite, la plupart des libéraux, des gens astucieux sur le continent, font des stages à Hong Kong. Et on revient dans cette période de 45-45. Où c'est l'élite, disons, des communistes un peu démocrates qui circulent à Hong Kong.
Mais ça a été d'abord dans les années 20, enfin entre 25 et 27, une sorte de terrain de lutte entre le jeune leader communiste Mao et Chiang Kai-shek, le nationaliste.
Mais
moins microcosme de cette lutte.
Mais moins qu'à Canton, quand même. Les grands lieux, Canton et Shanghai, étaient les lieux centraux, disons, de la bataille entre les deux versions de la révolution communiste et la révolution, surtout, qui était la plus majoritaire à l'époque, qui était la révolution démocratique et nationaliste, si vous voulez. Et donc, c'est Hong Kong, quand même, il restera quand même que quand Hong Kong s'occupe de politique, personne n'y croit trop, quand même. Il faut se rendre compte.
Et vous pensez que cette observation d'ordre durable explique certains comportements d'aujourd'hui?
Ah oui, ça, je crois que Hong Kong, c'est un lieu de refuge. Un. Et c'est un lieu dont on se taille. Il n'y a pas d'autre mot, dont on se sauve. Deux. Et ça, ce sont des choses fondamentales. Et quand les Chinois en font trop et paraissent menacés sur quelque chose de fondamental, alors Hong Kong se révolte. Maintenant,
la révolution des parapluies aujourd'hui,
alors,
sous cette
qu'est-ce
lumière.
Qu'est-ce qu'il y a de neuf véritablement? Ce qu'il y a de neuf, c'est qu'il y a une couche d'étudiants. C'est vrai, ça fait 5-10% de la population. À quoi s'ajoute une couche, disons, de bobos? C'est ceux qui achètent français, qui vont au café français et qui s'habillent français.
Mais est-ce que ça
donc,
s'explique?
On est à 20%, ça.
Et ça s'explique à
quoi? Ah ben là, c'est des mutations sociales. Ça, c'est des mutations sociales.
Donc plutôt rupture que continuité à cet égard.
Alors là, il y a un peu de rupture, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour faire la majorité. Et c'est pourquoi j'ai été, moi, très content d'apprendre que les étudiants cédaient, que les bobos restaient à prendre leur café au bord des petites ruelles, parce que maintenant on prend son café tranquillement, parce qu'autrement, si les Chinois s'étaient fâchés, ça aurait été sanglant. Disons. Et je me félicite aussi que les Chinois n'aient pas cogné. Ça veut dire qu'il y a quand même un tout petit quelque chose de nouveau à Pékin.
Et vous parlez des événements les plus récents de ces derniers jours.
Absolument.
Ces derniers jours.
Absolument. Et je crois que c'est un effet de la sagesse de Pékin et surtout de la sagesse du nouveau, du patron, là, Xi Jinping. C'est l'effet de sa sagesse d'avoir hésité, disons, et d'avoir laissé le temps aux jeunes de se calmer. On leur a sans doute promis des bourses royales pour Los Angeles, etc., etc. Ça, les Chinois ont de l'argent maintenant, il n'y a pas de problème.
Lieu de passage, finalement, ce n'est pas peut-être un territoire où la révolution fleurit le plus facilement, c'est ça que vous nous dites?
Où la révolution fleurit
dans un lieu de
oui,
passage.
Oui, non, c'est pas Hong Kong. Hong Kong révolutionnaire, franchement, personne n'y croit, quoi. Non, franchement. En revanche,
en tout cas, après cette émission,
révolutionnaire pour
Hong Kong révolutionnaire pour faire la révolution, qui pour faire la révolution qui consiste à faire circuler l'argent encore plus vite, ça oui. Hein. Hong Kong révolutionnaire au sens où il s'agit, la révolution, c'est de repérer avant tout le monde quelles sont les bonnes îles où on peut aller planquer ses sous, ça oui aussi. Hein. Ça, c'est des choses, c'est une révolution qui intéresse Hong Kong. Et Hong Kong révolutionnaire, maintenant, parce qu'il y a aussi une vraie révolution urbaine qui s'y déroule, ça, il faut savoir que c'est une ville où maintenant, dans le centre, on ne marche plus le long des avenues. On marche en haut, le long des grands, des grands buildings.
Il n'y a plus les pousses-pousses qui fascinaient les envoyés de la radio-télévision.
C'est dans les zones populeuses héritées du passé, vous voyez. Donc c'est ça les révolutions qu'on peut trouver à Hong Kong.
Au centre de cette réflexion, il y a toujours la question de la prudence du pouvoir central chinois, tentation d'y venir, recul. Voilà. Et tout de même, ce pouvoir a dû être très hérité dans les années qui ont suivi 1945-48, voir que c'était un refuge pour tous les évadés d'un communisme.
Absolument.
Et néanmoins, Pékin a surmonté la tentation d'aller les y chercher.
Et moi, je trouve que Pékin est devenu plus raisonnable. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant, parce que je crois que c'est un des domaines où le nouveau patron, là, M. Xi Jinping, se distingue de Mao Tse-tung. D'ailleurs, il le fait exprès aussi, parce qu'on l'ignore souvent, mais le père de Xi Jinping était en fait un fondateur de Base Rouge, et la famille Xi Jinping estime que Mao n'était pas tellement meilleur. Hein. Et donc la bataille continue, on peut dire, entre les deux familles. Hein. Et Xi Jinping n'a certainement pas été mécontent de se marquer dans une différence, dans plus d'adresse, plus de décontraction. Laissons faire Hong Kong. Ils veulent discuter. Bah, discutons. De temps en temps, quand même, la nuit, il vaut mieux qu'ils rentrent tôt chez eux, parce que sinon, il y a des nervis qui, comme ça, les laissent un peu étaler pour le petit matin. Au petit matin, ça, oui, quand même. Disons, on encadre un tout petit peu l'affaire par les nervis, et d'une part, et d'autre part, par la discussion, soyez sérieux, et puis les promesses, disons, de bourse, etc.
Quant aux réfugiés, vous évoquez les réfugiés de la misère, et il y a aussi tous ces estropiés politiques qui se sont déversés dans les années 70. Vous avez constaté à l'époque une sorte de musée vivant des horreurs accomplies par le régime.
Oui, tout à fait. C'était vraiment, dans les années 70, Hong Kong et Taïwan ont eu l'héroïsme, il faut bien le dire, de maintenir cette idée qu'il y avait d'autres Chines possibles. Ce qui est d'ailleurs une évidence pour tout sinologue. Il n'y a que le journal Le Monde et un certain nombre d'amateurs, disons, d'idées simples.
Et toc.
Pour croire que... Ben non, mais écoutez, la Chine fait... attendez, arrêtez, ils sont combien ?
Je vous en prie, ce micro immenses. Est parfaitement libre.
Non, mais ils sont immenses.
Et puis vous aurez vos amis.
Ils sont immensément nombreux, ils sont immensément variés. Ils parlent 50% seulement des Chinois, parlent le chinois. Les autres vous tapent sur le dos dans les trains et vous disent où est-ce qu'on arrive. Moi, je leur dis, mais enfin, c'est vous le chinois. Ils disent, oh mon pauvre ami, s'il fallait savoir lire tous les caractères, alors là, vraiment, ça serait trop compliqué. Donc, véritablement, ceux qui connaissent la Chine savent que la Chine est un problème à elle-même. C'est pour ça, d'ailleurs, que je présentais tout à l'heure l'Angleterre comme ayant été mais vraiment le miracle, parce que les Anglais allaient faire le sale boulot. C'est-à-dire tenir Hong Kong tranquille, sans trop d'ailleurs taper dessus, sans trop de scandales. Et c'est ça, faire en sorte que l'ordre règne dans un pays où, comme dans toute la Chine, l'ordre fait problème.
Il y a vraiment une spécificité à vous entendre, Jean-Luc Domnac, dans cette relation entre le colonisateur et les colonisés, ouais. Une espèce de non-dit constant qui donne une originalité particulière à Hong Kong par rapport à l'histoire de toute la colonisation.
Absolument.
Autour de la planète.
Absolument.
Vous diriez cela aussi ?
Je crois que ça a été, oui, tout à fait, et ça a été par rapport à toutes les colonisations de la planète, parce qu'ils ont apporté quelque chose, et les Chinois étaient vraiment très contents, et ils étaient d'autant plus contents que les Anglais en faisaient le moins sauf à payer quand même pour le social, c'est bien après tout, si les Anglais payent, hein, c'est bon, et donner des visas pour partir, c'est bon ça aussi. Donc voilà, c'est ça que les Anglais auront donné à Hong Kong et à la Chine.
Les vagues qui ont suivi la révolution culturelle et les horreurs ont été particulièrement frappantes.
Ah oui. Et Hong Kong...
Vous décrivez une troupe de misère, en vérité.
Alors, oui. Ça, c'était le train de midi 7. Dans la gare de Kowloon, où arrivait le train venu de Pékin, et qui avait descendu jusqu'à Canton.
Kowloon, c'est la gare
sur le continent. C'est sur le bout de la langue de terre qui arrive du continent.
Péninsule.
Voilà. Et de ce train descendait... des gens qui étaient, on peut dire, les catastrophes de la catastrophe, qui étaient, c'était des peintres aux yeux crevés, c'était des pianistes aux doigts cassés, c'était des écrivaillons ou des écrivains que soutenaient leurs parents, encore eux-mêmes déjà un peu atteints. C'était quelque chose d'effroyable. C'était véritablement le musée des horreurs, quoi, qui descendait comme ça tous les jours.
Une sorte de déversoir de la
misère. Les Chinois étaient bien contents parce que c'est les Anglais qui allaient payer, quoi, hein, en gros. Mais tout Hong Kong était très content et tout Hong Kong souffrait, disons, en silence de cette horreur qui se déroulait à ses portes. Et c'est là que l'on comprend. Ce qui relie Pékin de Hong Kong. Hong Kong et Pékin, c'est une parenté. Ce n'est pas une appartenance. Les Chinois feront ce qu'ils voudront, ce qu'ils pourront, ce qu'ils voudront, mais les Hongkongais resteront tout naturellement sur cette onde, en quelque sorte, écoutez, vous êtes bien, bien gentil, mais finalement bien méchant. Laissez-nous faire de l'argent. Laissez-nous faire, en même temps que de l'argent, notre destinée. Nous sommes arrivés de Chine. Nous refaisons les finances de la famille et nous nous taillons au Canada dans quelques années. Et on chiffre d'ailleurs les effets sur les débuts, sur les intentions de départ des troubles hongkongais. Par exemple, je peux vous donner le chiffre pour l'effet. Combien de gens veulent partir en plus au Canada depuis qu'ont commencé les troubles derniers? 60 000 pour les uns, 100 000 pour les autres qui partent et qui cherchent dès maintenant à acheter, par tous les moyens possibles, un visa canadien.
Dès juin 1996, selon un sondage, 36% des habitants seulement se considéraient comme chinois, des habitants de Hong Kong, 49% comme des Hongkongais. C'était juste avant la rétrocession, à quoi maintenant il faut que nous arrivions, puisque l'heure tourne, Jean-Luc Domnach, c'est-à-dire le moment où l'Angleterre s'est résignée à rendre sa colonie. Et voilà l'ambiance telle qu'elle peut être décrite par un correspondant de la radio d'Intersoir, Frédéric Barrère. On est le 30 juin 1997, à minuit, heure locale, heure à laquelle les Britanniques rendent Hong Kong à la Chine.
Les Britanniques voulaient une sortie digne et sereine, ça a été effectivement le cas. Cela dit, c'est difficile à croire cette nuit à Hong Kong, mais les rues de la ville sont pratiquement vides. Par exemple, il n'y a aucun écran géant installé dans les rues pour pouvoir suivre les cérémonies. Alors les gens sont tout simplement chez eux ou dans les halls d'hôtels, là où il y a des télévisions. Si bien qu'à minuit et une seconde, moment historique, lorsque le drapeau chinois flottait pour la première fois sur Hong Kong, eh bien, il n'y a pas eu de clameur particulière dans les rues. J'ai vu tout de même un policier changer l'emblème qu'il avait jusqu'à présent sur la casquette. Il a enlevé la couronne britannique et il l'a remplacée par la fleur de Bohénia, une sorte d'orchidée. C'est le nouvel emblème de Hong Kong. Et cette petite pièce de métal, cette petite fleur en métal, le policier l'a gardée toute la journée dans sa poche en attendant minuit précise. Les cérémonies se sont déroulées aujourd'hui sous la pluie. On a même dû distribuer des parapluies à Yang Zemin, le président chinois, et au prince Charles pour suivre les cérémonies d'adieu britanniques qui s'est déroulées en plein air. Chris Patten, l'ex-gouverneur du territoire, très ému, a terminé son discours en versant quelques larmes. Il a déclaré que maintenant Hong Kong allait être gouverné par des Hongkongais. C'est son destin, a-t-il dit. et personne ne peut le changer. Un peu avant minuit, le prince Charles a tenu le même genre de discours. Lui aussi était très ému. Le drapeau du Royaume-Uni a été amené, le drapeau chinois a été hissé. Le prince Charles est parti avec Chris Patten à bord du Britannia et les premiers soldats chinois ont franchi la frontière sur ordre de Jiang Zemin. Ils ont franchi la frontière à minuit. C'était un symbole auquel tenait Pékin et c'était un symbole auquel Londres s'est finalement plié. Les 4000 soldats chinois n'ont pas tous franchi la frontière. Ils le feront progressivement durant la nuit. Mais à 6 heures demain matin, c'est-à-dire à minuit à Paris, les troupes chinoises devront toutes être arrivées à Hong Kong. Hong Kong est désormais une région autonome spéciale de la Chine. Ça veut dire que rien ne doit changer pendant 50 ans. Seulement déjà, les premières lois limitant le droit de manifester, par exemple, sont en vigueur. Hong Kong, Frédéric Barrère, France Inter.
France Culture, concordance des temps.
Jean-Noël Jeannet.
En l'occurrence, Jean-Luc Domenac, les parapluies servaient au président chinois et au prince Charles pour de bon à protéger des intempéries. Ce n'est pas le cas des parapluies d'aujourd'hui.
C'est vrai.
Elles ont évolué, mais cette évolution des parapluies ne mérite pas probablement qu'on s'y attarde trop. Ce qui me paraît intéressant à rappeler, c'est la manière dont finalement les Anglais ont cédé. Et curieusement, je dis curieusement parce que ce n'est pas conforme à l'image de la dame de fer, c'est Madame Thatcher qui
s'est effondrée.
Le fer qui s'effondre.
Tout à fait. Là, Deng Xiaoping l'a complètement écrabouillé.
On est en 1984.
Incroyable.
On est en 1984.
Ça s'est fait comme ça. Incroyable.
On est en 84.
1984.
13 ans avant.
Entouré d'une légende, etc. Et Deng Xiaoping, lui, à ce moment-là, avait besoin un peu de rappeler qu'il était le patron en Chine même. Et alors, il se l'est fait, mais en une heure, véritablement. Il l'a cassé.
Il se l'est fait, vous voulez dire.
Il se l'est fait.
Oui, c'est ça.
J'hésitais.
On ne peut pas vous accuser de machisme, en l'occurrence.
En tout cas, voilà. Et en tout cas, ensuite, elle était comme éberluée, véritablement, comme un boxeur knockdown, plutôt. Tout est allé tout seul. À la vérité, dans les deux cas... il y avait, comment dire, chacun cherchait quelque chose dont les Hongkongais ne voulaient pas. Les Anglais voulaient se tailler, voulaient partir, ce que les Hongkongais ne souhaitaient pas tellement, parce qu'ils avaient, comme vous avez compris, que l'intérêt des Anglais, c'est que quand ils étaient là, c'est comme s'ils n'étaient pas là, et que ça marchait tout seul. Dès lors qu'au coin de rue, il y avait un Bobby qui faisait le boulot, et que tout l'ensemble marchait, que le fameux tram marchait, etc., etc. Par ailleurs, les Hongkongais ne souhaitaient pas non plus tellement que la Chine arrive avec tout son arsenal, pas seulement de lois, mais surtout de manque de lois. C'est ça le problème. C'est que la Chine, elle, gouverne d'une façon qui est mafieuse, quoi.
Alors là, c'est un point essentiel. Les accords passés avec l'Angleterre quant à l'avenir des institutions à Hong Kong, et c'est probablement important, c'est même sûrement important dans les manifestations d'aujourd'hui.
Absolument.
La question de l'apparence ou de la réalité d'un suffrage universel, comment sera désigné le chef de l'exécutif.
Les Chinois ont menti, n'ont pas accompli leurs promesses. Et comme prévu également, ce qui s'installe de plus en plus avec les Chinois, c'est le pouvoir de l'argent et le pouvoir des mafias.
Alors aujourd'hui, on discute dans les rues, les manifestations des parapluies, en tout cas en apparence, veulent obtenir plus de liberté d'expression et un suffrage universel. Pour la c'est ce qu'on lit, c'est que la désignation du chef de l'exécutif devrait se faire au suffrage direct, etc.
Il y a beaucoup de journalistes qui veulent aller trouver un problème partout ailleurs dans le monde, c'est le problème de la démocratie. C'est souvent le cas, c'est pas toujours le cas.
Et là, ce n'est pas le cas.
Les Chinois veulent qu'on leur foute la paix. Les Chinois de Hong Kong.
Les étudiants aussi.
La paix.
Les étudiants aussi.
Alors, les étudiants, ça, c'est les 5% ou les 10% tout à fait respectables. Et à quoi j'ajoute les 10% de bobos tout à fait respectables. Mais ce n'est pas avec ça qu'on fait une majorité. Et on en fait juste assez pour que les Chinois, s'ils sont mal drivés, cassent la baraque. Et c'est heureusement ce qui ne s'est pas passé, parce que M. Xi Jinping a fait attention, disons, et il laisse la situation pourrir. Et finalement, il veut conduire les jeunes à... comprendre que voilà, ça va s'arranger, faut attendre un petit peu, et puis eux-mêmes finiront par avoir 30 ans, puis 40 ans, et puis pourront eux-mêmes commencer à toucher leur part du gâteau, etc., etc. C'est un peu comme ça. Le calcul des Chinois, c'est celui-là.
Et du côté de la liberté d'expression, on jette aussi du lest. Écoutez ce reportage qui date de moins d'un an après la rétrocession de la Chine, un reportage d'Alain Le Gouguec de France Inter à Hong Kong, 11 janvier 1998, à propos précisément de la permanence apparente d'une certaine liberté d'expression.
Lorsqu'on arrive chez vous, on voit une photo sur la porte avec les chars de la place Tiananmen. Alors c'est très symbolique, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, alors que Hong Kong est rattaché à la Chine populaire, on peut encore mettre sur une porte une photo de ce genre, une photo qui à Pékin, dans la présence à Pékin, serait impensable.
Ouais, d'abord, ils sont pas au courant que j'ai mis cette photo sur la porte. Mais même s'ils viennent voir cette photo, je crois que pour l'instant, il n'y a pas de risque pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi à Hong Kong qui n'ont pas oublié cette chose. Et d'ailleurs, c'est une très belle photo. Puis c'est un symbole pour nous, tout ce qui rappelle du massacre sur la place. Donc pour l'instant, il n'y a pas de risque. Je n'ai pas eu d'ennui à cause de ça. Mais par contre, le 4 juin qui est à venir, je vais voir combien de gens qui se présentent sur la place de Victoria Park. Parce que chaque année, on va là pour faire manifestation. Cette année-là, je ne sais pas combien de gens qui osent aller faire la même chose comme l'année dernière. Bah, je vais voir.
Le 4 juin 1997, à moins d'un mois de la rétrocession, 55 000 personnes manifestaient pacifiquement et en musique, vous l'entendez, à Victoria Park, une bougie à la main en hommage aux morts de Tiananmen. Le 4 juin prochain permettra incontestablement de tester l'indépendance et la volonté de liberté des Hongkongais tout en éprouvant la patience de dirigeants pékinois qui se sont engagés à ne toucher à rien pendant 50 ans suivant le principe « un pays, deux systèmes ».
Jean-Luc Domenac, le 4 juin est devenu dès 1998 un moment important. J'observe que le chef de l'exécutif pressenti à ce moment-là avait dit qu'il ne fallait pas s'encombrer des bagages de l'histoire. Ce n'est pas une épigraphe bienvenue pour cette émission.
Oui, mais là encore, il faut faire attention. Ce que les Chinois n'aiment pas dans cette affaire du 4 juin, c'est que c'est les tanks et que peut-être ces tanks-là menacent Hong Kong. Ça, ils n'en veulent pas. En revanche, prennent-ils parti pour la démocratie? La démocratie, oui, à la condition que ça ne coûte pas trop cher, que ça ne soit pas trop compliqué, etc., etc. Vous voyez, ce sont quand même des gens pour qui l'essentiel, c'est leur destinée familiale et individuelle, leur liberté, deuxièmement, et troisièmement, comme condition, la liberté globale. Mais la liberté globale au sens où pas de char et pas de coucher obligatoire avant 10 heures, quoi. Voilà, c'est tout. Mais ils accepteraient même plus d'obligations sociales. Vous savez, le Hongkongais, c'est quelqu'un qui bosse, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui estime qu'une bonne épouse est une épouse qui obéit, etc., etc. Ah oui. Alors à part toutes
Je comprends pourquoi vous avez passé beaucoup d'années avec tant de plaisir.
Voilà. Bon.
Et vous pensez que cet étudiant avec sa photographie, dont on imagine que c'est la photographie du char avec le manifestant portant son petit sac de plastique, vous pensez qu'il l'a gardé, cette photographie ?
Oui, il l'a gardé. Il y a une minorité qui est tout à fait héroïque. Il y a une minorité qui maintient le souvenir. Il y a ça. Parce que justement, Hong Kong est une zone de liberté. Est-ce que c'est une zone qui est apte à connaître la vraie démocratie ? Je sais pas, il faudrait d'abord que le Hongkongais moyen vive plus de 30 ans à Hong Kong, vous comprenez ? À Hong Kong, on y passe, c'est ça qu'il faut comprendre.
Vous pensez qu'ils partent avec leur photographie de Tiananmen ?
Je crois qu'ils partent avec leur photographie.
Il y a aussi le 1er juillet, il y a deux dates essentielles qui ont d'ailleurs été le moment de turbulence spécifique à Hong Kong cette année.
Voilà, c'est surtout quand même le 4 juin qui est vraiment important.
Qu'est-ce qui se passe en fait concrètement ?
Le 4 juin, c'est le souvenir de la... C'est le souvenir de la place Tiananmen, c'est le souvenir de l'écrasement.
Je veux dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Hong Kong ?
Ah ben maintenant, ce qui se passe à Hong Kong, c'est prudence, voyons comment ça va se,
comment ça va évoluer. Et ensuite, on se glissera un petit peu partout pour essayer de rétablir, sans trop le dire, ce qui se passait avant. Il s'agit de recréer l'atmosphère qui existait avant les troubles qui ont éclaté grâce ou à cause de la jeunesse.
Voilà. Les 15 dernières années...
Vous savez, il y a une chose, pardonnez-moi, il y a une chose qui est importante. Il faut savoir qu'en monde chinois... les jeunes, c'est à la fois indispensable, au point d'ailleurs qu'une jeune épousée a intérêt à se dépêcher à faire un enfant, sinon elle aura des ennuis avec tout le voisinage.
Mais un seul,
donc
ou
c'est
plusieurs.
Important. En tout cas, un, tout de suite, vite.
Elle voilà. A le droit d'en faire de
pas
plus.
De
elle a eu le droit d'en faire plus.
Elle a le droit d'en faire plus.
Contrairement à la Chine continentale.
À Hong Kong. Mais je veux dire, c'est très important, les enfants. Mais quand les enfants sont nés, alors il faut qu'ils. Et qu'ils obéissent, si vous voulez. Les enfants, ils doivent obéir à la légende familiale, ils doivent obéir à la légende de la colonie de Hong Kong, ils doivent obéir à la légende du projet familial et hongkongais, qui est on arrive et on se taille, vous voyez. Et pour devenir riche, parce que toi, tu as fait l'université à Hong Kong, mais tes enfants à toi feront Harvard. C'est ça le projet. Il faut bien voir pour toute ce Hong Kong qui réussit, le projet, c'est l'Amérique ou le Canada. C'est ça. Ou bien tout petit peu, il y a toujours des bizarres qui vont en France. Il y a toujours des... Mais il y en a.
Ils nous écoutent. Est-ce que vraiment ces manifestations antérieures ont toujours été inefficaces? En 2003, il y a eu des manifestations importantes, un demi-million dans la rue et qui ont réussi à faire reculer le gouvernement central qui voulait en fait faire adopter la loi fondamentale de Pékin, sanctionnant les activités subversives. En plus, c'était au moment de l'épidémie du SRAS, ça a été tendu et les manifestations à l'époque n'ont pas été sans obtenir quelques résultats.
Absolument, parce que chaque fois que Hong Kong, que la façon d'être de Hong Kong, c'est-à-dire le moins possible de lois, le moins possible de contraintes, chaque fois que cette façon d'être est menacée, Hong Kong se lève. C'est ça. C'est pas tellement la demande de loi. C'est la demande de pas d'absolutisme et que quand même, s'il vous plaît, réduisez un tout petit peu le rayon d'action des mafias, réduisez un tout petit peu le nombre de ceux qu'on retrouve le petit matin avec un couteau planté entre les omoplates. Voilà, parce qu'Hong Kong reste un peu comme ça quand même, vous voyez. Il y a un Hong Kong de la nuit. Alors chaque fois, disons, que ce Hong Kong de la nuit, que ce Hong Kong des triades, qui est par ailleurs nécessaire à l'équilibre général de l'ex-colonie menace, disons, de devenir trop importante, alors Hong Kong se soulève et demande plus de lois, demande plus de protection.
Une sorte de jeu, un peu de pneumatisme,
absolument,
on avance un
absolument.
Peu, et vous pensez que...
Ce qu'on appelle la démocratie, c'est laissez-nous tranquilles, c'est protégez-nous. Voilà.
Oui, mais en même temps, il y a beaucoup d'habitants qui disent ne protégez pas trop avec des lois trop oppressives.
N'en faites pas trop non plus, bien sûr, merci. Tu m'as bien compris, là. Parfaitement.
Bien, et bien, sur ce tutoiement affectueux...
Excuse-moi.
Je déclare que nous approchons de la fin de cette émission. Nous y sommes, à vrai dire, occasion de... D'abord, avant toute chose, de célébrer votre beau livre récent qui m'avait donné l'occasion de vous inviter, consacré Jean-Luc Domnac à Mao, à sa cour et à ses complots, paru chez Fayard, que chacun se précipite pour en prendre connaissance. On entre vraiment dans la réalité de ces années 1960 de façon tout à fait stimulante. Quant à Hong Kong même, trois livres, il y en aura d'autres comme d'ordinaire sur notre site, Marina Dija et Dorian Malovic, Hong Kong, un destin chinois, Bayard, 1997, c'est un livre que vous appréciez.
Oui, qui est probablement l'un des meilleurs. Ouais.
Eh bien, nous le notons. Jean-François Dufour, oui, pas mal non plus. Hong Kong, Le Monde Édition.
Il
fallait absolument que je cite Le Monde après ce que vous aviez dit. Le Monde Édition, 1997. Et puis Gérard Gégère, Hong Kong, Chronique d'une île sous influence, aux éditions du Félin, 1997. Vous pourrez, vous le savez, donc retrouver d'autres livres sur notre site, je viens de le dire, et les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter, télécharger cette émission. Faites-le en grand nombre. Samedi prochain, changement de décor, Jean-Luc Domnac, puisque nous irons dans la Grèce antique pour réfléchir à l'actualité de Socrate et à la signification de son procès, qui a été interprété au cours des âges de façon extrêmement variée. Mon invité sera Paulin Ismar. C'était Depuis Blois et en public, Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet préparée par Nathalie Lempereur et par Jeanne Guéroux, réalisée par Sylvain Richard, avec Arthur Gerbeau et Patrice Klein à la prise de son, avec Isabelle Fort-Rendu qui nous a permis d'accéder, comme chaque semaine, aux archives d'INA. Je voudrais spécialement remercier les équipes décentralisées, les équipes techniques qui sont venues nous aider à Blois. Je n'ai pas eu, comme aux États-Unis, à brandir une pancarte avec écrit « Applaudissez ». Je vous remercie